Mois de mars 2017, mois de la francophonie. L'année 2017, 30 ans de radio à CUT FM. Du 5 au 26 mars, CUT FM et Popurucho célèbrent leurs 30 ans. Chaque dimanche, soyez au cœur de la fête, de 10h à 13h sur 89,5 FM ou www.cut.fm. Le département de français Campus Saint-Georges et le département d'études langagières Campus de Mississauga à l'Université de Toronto et le centre de recherche en éducation ontarienne, le CREFO, s'associent à Popurri Show pour vous présenter Langue française, diversité linguistique. Le CREFO, 40 ans de recherche et d'enseignement. L'Express de Toronto, 40 ans d'existence. CUTFM, 30 ans de radio et de francophonie. Tout au long du mois de mars, soyez au cœur de la fête et de la francophonie avec nos partenaires universitaires. Le 13 mars, avec un pot franco suivi de la projection du film « Monsieur Ibrahim, les fleurs du Coran ». Suivi de Soirée des talents le 16 mars avec le groupe populaire « Amélie et les singes bleus » sur le campus de Mississauga. Le dimanche 19 mars, soyez les nôtres en direct à CUTFM pour célébrer la Journée internationale de la francophonie avec une émission spéciale des invités des correspondants à Toronto et sur les 5 continents. Du mardi 21 mars au vendredi 24 mars, la francophonie vous apporte le printemps avec des croissants. De 10h à 11h au département de français, campus Saint-Georges, Université de Toronto. Le mercredi 22 mars, cocktail, 30 ans de radio et soirée de reconnaissance des bénévoles au Hot House en partenariat avec le professeur Elie Bouraoui, fondateur du Centre Canada-Méditerranée à l'Université York. Mois de mars 2017, mois de la francophonie. L'année 2017, 30 ans de radio à CUTFM. Du 5 au 26 mars, CUTFM et Popurri Show. Soyez au cœur de la fête avec 57 pays qui célèbrent la beauté de la langue française et la diversité linguistique des peuples francophones. Chaque dimanche, soyez au cœur de la fête de 11h à 13h sur 89,5 FM ou www.cut.fm.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.FM or live from our studio. Popurri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popurri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.purri@simpatico.ca.
Écoutez Popurri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popurri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Madame, Monsieur, bien le bonjour, où que vous soyez à travers la planète, on vous salue en direct de Toronto. Nous sommes à Hot House Studio, Université de Toronto, je dis bien Toronto, Ontario, Canada. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale. L'ingénieur du son, DJ, devra assister de notre stagiaire, Sloane Ballan. Au microphone, Eric Kader, avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm. 20 mars 2017, journée internationale de la francophonie. J'aime, je partage. En ce dimanche 19 mars 2017, une émission spéciale dans le cadre de la journée internationale de la francophonie célébrée à travers la planète le 20 mars. Et en cette année, le thème, encore une fois, je vous le rappelle, parce que nous allons jouer sur les expressions les plus populaires et les plus loufoques dans le monde francophone, j'aime, je partage. Et cette émission est réalisée en partenariat avec le département de français Campus Saint-Georges, le département d'études langagières Campus de Mississauga à l'Université de Toronto, le centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Écoutez, participez, courez la chance de gagner des cadeaux de nos partenaires. Et oui, en nous téléphonant en direct, si vous êtes dans notre zone de diffusion, c'est le 86-946-7000 ou encore par courriel pot.courri@sympatico.ca. Et parmi les thématiques abordées en ce dimanche, langue française, diversité linguistique, le vivre ensemble que nous lance la secrétaire générale de la francophonie, est-ce possible ou c'est plutôt une utopie ? CUTFM, 30 ans de radio, 30 ans de francophonie à l'antenne, 30 ans en tant que témoin de la francophonie d'ici et d'ailleurs. Le CREFO, 40 ans de recherche et d'enseignement en français. L'Express de Toronto fête ses 40 ans. Quels sont les défis, surtout avec l'avènement de l'Internet et des réseaux sociaux? Alors que l'Ontario a désormais un siège d'observateur au sein de la francophonie internationale, mais qu'en est-il de la vitalité de la francophonie ontarienne? Connaissez-vous la francophonie ontarienne? Quels sont les dossiers chauds de l'heure? Connaissez-vous les principaux acteurs et défenseurs des droits et des services en français en Ontario? Comment se porte la création littéraire en milieu minoritaire au Canada? Voilà tant de questions. Et savez-vous faire les bons accords? Ah, les problèmes de la langue française, n'est-ce pas, chers invités? Qu'est-ce qu'on dit? Un café ou une café? Un baguette ou une baguette? Le journée ou la journée? Eh oui, tout au long de cette émission, nous allons jongler avec les mots, avec mes invités. Ici, avec moi en studio à Toronto, nous avons professeur Pascal Michelucci, directeur du département de français, Campus Saint-Georges, Université de Toronto. Bonjour.
Bonjour Eric, bonjour les auditeurs.
Oui. Et oui, vous êtes très populaire. Je vois votre photo en première page dans le journal L'Express de Toronto. Bravo. Comment avez-vous
fait? J'ai eu de la chance que ce soit une bonne photo.
Et le professeur Eddie Bouraoui, professeur émérite, poète, écrivain, troubadour, fondateur du Centre Canada Méditerranée à l'Université York, notre grand ami de toujours. Bonjour, professeur Bouraoui.
Bonjour, Eric. Comment ça va? Bonjour à tout le monde.
Alors, et nous avons professeur Caroline Lebrec, une nouvelle collaboratrice qui fait des choses extraordinaires sur le campus de Mississauga. Caroline Lebrec est agente de liaison au département d'études de langagière, campus de Mississauga à l'Université de Toronto, très beau campus d'ailleurs, et elle est avec nous comme co-animatrice aujourd'hui, et j'espère qu'elle va garder cette tradition des autres professeurs du département de français, n'est-ce pas Pascal?
Oui, je l'espère aussi.
Et en direct de Paris, la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, ne pouvait pas être des nôtres, mais par contre, elle nous a envoyé un petit message, un petit cadeau, un petit bonjour, un petit coucou, comme on dit, lors à la veille de la Journée internationale de la francophonie. Dany Laferrière, qui est membre de l'Académie française, il est canadien, québécois, haïtien, français, et il va nous livrer le dictionnaire intime de la langue française, son dictionnaire intime de la langue française. Et professeur Emmanuel Nikemia, qui est le directeur au département de l'Université de Toronto, Mississauga, sera des nôtres dans la deuxième heure. Monsieur Carole Gelin, qui est président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, et il sera des nôtres vers 11h30. François Bergeron, directeur en chef du journal Express de Toronto, sera des nôtres, je l'espère. Et professeur Daniel Issa-Sayeg, qui d'ailleurs était là avec nous pendant plusieurs années, elle est à Nice et elle voulait absolument nous saluer aujourd'hui en direct à la veille de la Journée internationale de la francophonie. Stéphane Cormier, co-directeur général et directeur de la commercialisation aux éditions Prise de Parole, qui se balade quelque part à Montréal, entre Montréal et Québec, sera des nôtres. Percy Iptong, très francophone dans l'âme, il est directeur artistique de Cyper Productions et correspondant de notre émission depuis très longtemps. Il est à l'île Maurice, dans l'océan Indien. Koya Barile Kuz, un jeune étudiant qui est avec nous, madame, monsieur, pour la première fois, quelqu'un a eu le courage pour participer à nos jeux concours. Et Koya est étudiant en sciences politiques et en relations internationales à l'Université de Toronto. Bonjour, Koya.
Bonjour, merci d'avoir eu vous.
Merci. Guillaume Play, animateur de Énergie Paris, sera des nôtres et pour discuter un peu des problématiques de la langue française avec ses auditeurs nouvellement arrivés sur le territoire parisien, comment les complications de la langue française quand on n'est pas francophone. Alors, chers partenaires, je vous remercie du fond du cœur de nous prêter, de jouer avec nous, participer à cette émission aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie. Ça va bien? Vous avez passé un bon début du mois de mars? Oui?
Oui, le temps s'améliore, c'est le printemps qui s'annonce.
Oui, alors je sais qu'il y a eu quelques activités déjà, je vous ai vu, mais cette semaine qui vient de s'écouler, c'était quand même cadeau, je pense, que les jeunes nous ont offert dans l'ouest de la ville, sur le campus de Mississauga. C'était la soirée des talents. Et à ma grande surprise, j'étais émerveillé de voir cette vitalité de la langue française. Et Caroline est un peu l'instigatrice de ces rencontres, de ces activités. Vous êtes satisfaite?
Oui, très satisfaite. J'étais tout aussi émerveillée que vous. L'année dernière, on a doublé le nombre de participants cette année à l'occasion du cinquantenaire du campus de l'Université de Toronto à Mississauga. Et c'est pas seulement d'avoir doublé le nombre de participants, mais c'est que les étudiants de première année étaient plus de 20 à participer et en général, ils n'osent pas vraiment prendre la parole ou chanter ou en français dès la première année de leur programme. Donc c'était absolument incroyable de leur part et certains numéros étaient très bons.
Oui, et il faut dire aussi que c'est pas des jeunes qui sont nés dans des zones francophones, des territoires ou des pays francophones. Quand on voit des gens du Mexique, de Guatemala ou encore de Hong Kong, du Japon, le Vietnam, bon ça va, mais de Philippines par exemple, cette jeune fille qui avait interprété une très belle chanson. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qui attire ces jeunes à s'atteler à la langue française comme ça chez vous?
Ben, ce sont des jeunes qui viennent au Canada. L'Université de Toronto les attire très certainement pour faire leurs études. Et la réalité du Canada, ce sont les deux langues officielles. Et dès le début, ils essayent de commencer à apprendre le français. Des fois, ils le connaissent aussi avant de venir. Donc, c'est un élément pour eux, en tant que nouvellement arrivés au Canada, qui fait partie des prérequis.
Mais Alors, ce que je vais dire tout au long de cette émission va peut-être surprendre un peu les gens, mais vous savez, on aime bousculer un peu les traditions ici, parce que souvent, les gens pensent que, en Ontario, quand on parle de francophonie, c'est gnan, 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 c'est toujours les mêmes. Et là, on a vu qu'il y avait des talents, des vrais talents, et des musiciens, même des sketchs qui ont fait référence au problème de OGM ou encore de la politique américaine actuelle. Vraiment, ils ont le sens de l'humour et on sent qu'ils suivent l'actualité. C'est ça que j'ai aimé. Et en plus, il y avait des professeurs qui aussi ont pris le temps de faire le numéro. Ça, c'était très intéressant. Alors, et chez vous, professeur Bouraoui, est-ce que vous suivez un peu l'actualité de la francophonie
très, très
à chaque année?
Oui, très bien. Le département d'études françaises de York et celui de Glendon font aussi une petite sorte de show, un petit peu de récital de poésie, de Prévert, etc. Mais même s'ils ont un poète parmi eux, ils ne m'ont jamais invité, que sauf pour lire un poème de Prévert. Très intéressant, mais bon.
Oui. Vous
voyez, enfin, la francophonie est en marche, si vous voulez, mais on ne se rend pas compte toujours des gens que nous avons autour de nous et qui peuvent participer avec une voix originale et non pas quelque chose qui a été rabâché 36 000 fois. Ça, c'est un petit défaut que je remarque.
Oui, je pense que c'est ça qui m'a impressionné à l'Université de Toronto, campus de Mississauga, c'est qu'il y avait de l'innovation. Il y avait même un jeune rappeur qui a, c'était pas nécessairement en français là, mais c'est pour moi les talents, c'est de voir comment quelqu'un peut faire un montage, un mixage et expliquer en français. Et c'est d'avoir cette liberté d'expression dans toute sa diversité, c'est ça la francophonie.
Oui.
Et donc on pourra en parler tout à l'heure, mais pour tout de suite, nous allons passer, je pense, à Dany Laferrière. Est-ce que c'est prêt? Oui. Alors ça, c'est très intéressant parce que il aime, lui aussi, à sa façon, jongler avec les mots. On sait qu'il est né en Haïti, il a eu une enfance très difficile, même douloureuse. Il avait fait un film qui avait, comme lui a fait remarquer au Québec, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Mais depuis ça, il a écrit plusieurs autres livres. Et maintenant, il est très connu comme Barabbas dans La Passion, dans le monde francophone. Et il est à l'Académie française. Alors, il est intervenu l'année dernière et cette année encore sur plusieurs de nos radios partenaires. Et grâce à RFI et d'autres radios françaises. Il livre dans une série d'émissions, de capsules, son coup de cœur, son dictionnaire propre à lui, qui est lié, il prend un mot de la francophonie, mais il mêle son enfance, son adolescence et son vécu face à ce mot. Et c'est ce que vous allez faire tout à l'heure, je vais vous donner un mot, par exemple, francophonie. Vous me dites ce que ça vous fait penser, rêver, voyager, un mot. Vous pouvez, francophonie, pour vous ça peut être voyage, pour un autre ça peut être diversité.
Oui, la diversité.
Pour un autre ça peut être
amusement avec les mots.
Oui, pour un autre ça peut être
la vie.
La vie, voilà. Alors, donc, on va tout au long de l'émission, j'espère que les gens à la maison vont aussi jongler avec les mots à leur façon. Alors nous passons immédiatement à Dany Laferrière qui est membre de l'Académie française. Son dictionnaire à lui aujourd'hui, il traite de cette question ou de ce mot, la nuit. La nuit, enfant, ma grand-mère me montrait des constellations et je crois que c'est cette façon qui m'a guéri de tout nationalisme. À vous, Dany Laferrière.
La nuit, il est devenu de plus en plus difficile de rêver vraiment depuis la disparition de la nuit dans les grandes villes. Les rues sont excessivement éclairées, les cafés bondés et à l'intérieur des maisons, la télé ouverte jusqu'au premier ronflement. J'ai redécouvert la nuit durant un de mes voyages en Haïti. Je me suis retrouvé dans un petit village sans électricité, les maisons éclairées par des lampes et les rues obscures. Au-dessus de nos têtes, la lune ronde et brillante. Je suis resté près d'une heure à l'observer. Cela fait un moment que je ne l'avais vue. Je me souviens de ma passion dans mon enfance pour la lune, cette amie qui m'accompagnait partout où j'allais Et puis, il y a les étoiles. Enfant, ma grand-mère me montrait les constellations, et je crois que c'est cette leçon qui m'a guéri de tout nationalisme. On trouvait, ma grand-mère et moi, qu'être simplement de la planète Terre était suffocant, et je trépignais d'impatience de visiter Mars, Jupiter, Vénus, Saturne et d'autres contrées voisines. À part tous ces souvenirs, ce qui m'avait étonné, c'était le fait que les gens se déplaçaient avec tant d'aisance dans cette nuit d'encre. Il m'a fallu un moment pour discerner ces ombres et comprendre que ça grouillait autour de moi. Je suis tellement habitué à l'idée de tout voir nettement que j'ai oublié toute la douceur de vivre dans la pénombre. Je me fais un vœu de retourner voir la nuit, cette plage de temps que l'électricité.
Alors voilà un extrait de son dictionnaire à lui, la nuit. Il se passe beaucoup de choses la nuit, mais on ne vit pas la nuit de la même façon à travers le monde. Non. Vous avez un souvenir?
Oui, traverser les villages d'Afrique un petit peu, c'est l'expérience que Daniela Ferrière décrit à son Haïti natal. Ouais. Quand on passe en Afrique, dans les villages, bien souvent, il y a une bougie dans le village, c'est la source de lumière pour la communauté. Pas d'électricité, évidemment, et le ciel est magnifique, immense.
Et moi, j'écoutais de la radio, un petit transistor, la nuit, avec ma grand-mère. On écoutait les jeux de 1000 francs. Vous vous souvenez, Lucien Jeunesse?
Oui. Moi, j'ai bien aimé lorsqu'il a dit que ça l'a guéri des nationalités, etc. C'est un point très important pour moi, en tous les cas. Parce que dans un de mes poèmes, quand j'étais jeune, j'avais écrit « Je hais les nations et les nationalités, source de haine et d'immortalité ». Le jeu avec la nuit et la nation comme une nation. Et ça me rappelle, moi, plutôt une petite nouvelle comme ça. Quand j'étais jeune, puisqu'il parle de nuit, moi, je me souviens que ma mère m'a raconté, quand je suis né, elle m'a mis sur le comptoir du magasin de mon père et je regardais la lumière comme ça, très, très intensivement. Et cette lumière-là, je crois, et je l'ai, je crois, écrit même quelque part, que c'est au fait ma mère qui m'a donné cet amour du voyage pour chercher la lumière, à la quête de la lumière. Voilà.
On y revient, on aura le temps, amplement le temps de parler de nos expériences. Nous avons un premier invité qui nous attend quelque part dans cette belle ville de Toronto où se trouve la Tour CN pour les gens qui nous écoutent sur Internet, qui ne se situent pas trop trop bien. Et vous avez écrit d'ailleurs un livre sur la Tour CN. François Bergeron qui est le rédacteur en chef depuis très longtemps. Et comme vous savez, le journal L'Express de Toronto a fêté ses 40 ans l'année dernière, sera des nôtres, mais dans un instant.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
C'était Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Héro.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça? Ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Je pense que nous avons entendu la voix de notre invité, il me semble. Et oui, l'hebdomadaire francophone L'Express de Toronto a célébré son 40e anniversaire en 2016. La publication a vu le jour en 1976 par Jean Mazaret. Le journal est tiré à 10 000 exemplaires par semaine et compte 40 000 visiteurs uniques par mois sur son nouveau site web. Mais qu'en est-il du rendement de l'Express de Toronto, surtout depuis l'avènement de l'Internet? Et cela me fait plaisir d'accueillir le rédacteur en chef du journal Express de Toronto, Monsieur François Bergeron. Bonjour.
Bonjour Eric.
Oui, alors vous êtes en bonne compagnie aujourd'hui. Nous avons professeur Pascal Michelucci, nous avons professeur Eddy Bouraoui que vous connaissez bien, Caroline Lebret qui est professeure à l'Université de Toronto, campus de Mississauga, et un jeune étudiant, Koya Barile-Kouz, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, tous ces gens vont vous poser des questions, une question peut-être. Et bravo, félicitations, 40 ans, et nous célébrons seulement 30 ans. Et avant de parler de vous, vous êtes un de nos proches collaborateurs depuis très, 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 très longtemps. Vous faites de la publicité, d'ailleurs, vous avez écrit un très bel article sur les départements de français cette fin de semaine. Bravo, merci. Nous avons un partenariat hors pair, il faut bien l'admettre. Qu'est-ce que la radio CUT, particulièrement l'émission Popourri, vous dit, ou quelle est votre définition? Comment voyez-vous cette émission en ondes depuis 30 ans?
Ben, écoutez, c'est très intéressant que l'Université de Toronto et cette fenêtre sur la francophonie torontoise et internationale hebdomadaire comme ça depuis 30 ans, c'est un exploit.
Et vous écoutez la radio vous-même régulièrement?
J'écoute plutôt la radio quand je suis dans l'auto. Oui. Mais donc pas si souvent que ça.
Oui.
Mais oui, j'écoute la radio.
Est-ce que vous avez autant de lecteurs fidèles, surtout depuis l'avènement de l'Internet? Parce que je sais que tous ces journaux papier aujourd'hui ont de la difficulté à survivre à travers la planète. Qu'en est-il chez l'Express?
Ben, écoutez, le papier est toujours payant. Et le grand défi qui, chez nous, comme dans tous les médias, c'est de rentabiliser nos sites web et notre transition vers le numérique, parce que sans doute qu'un jour il y aura plus de papier et d'après moi il y aura plus non plus de plus de radio et de télé, parce que tous les médias seront en fait sur Internet.
Ah oui.
Alors ce sera l'Internet qui sera le média.
Oui.
Donc on va évidemment, il va toujours avoir des médias qui vont être plus écrits, d'autres qui vont être plus parlés, d'autres qui vont être plus visuels. Mais tout ça va être sur Internet.
Oui.
Alors, moi, je suis une personne de l'écrit. Donc, j'ai tendance à lire beaucoup, même sur Internet, beaucoup d'articles qui sont publiés ailleurs. Même, j'écoute la radio autant sur Internet quand je tombe sur des liens avec une émission intéressante que à la radio en direct. D'après moi, on parle dans quelques décennies, probablement, 20, 30 ans, tout sera sur Internet.
Mmh.
Donc, c'est notre cas aussi. Mais pour l'instant, le modèle économique pour le journalisme sur Internet n'est pas encore au point, dans le sens où c'est pas encore assez payant de faire des médias Internet comparé à faire nos médias traditionnels.
Mmh. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Oui, Pascal?
Oui, moi, je vous félicite d'avoir créé ce bulletin hebdomadaire que nous recevons avec les grands titres de l'Express, parce que c'est très pratique dans la vie, comme on est très mobile dans la ville. On a toujours notre téléphone, et puis c'est toujours facile de lire les articles comme ça, avec les liens. C'est très, très bien fait. Donc, je recommande aux lecteurs potentiels de s'inscrire au bulletin hebdomadaire de l'Express.
C'est un rappel que de nos grands titres chaque semaine, mais en réalité, le site web, il est actualisé tous les jours. Et finalement, à la fin de la semaine, on fabrique le journal souvent à partir d'éléments qu'on a mis sur le site web durant la semaine, parce que les nouvelles, maintenant, on peut pas attendre une semaine avant de diffuser une nouvelle. On peut faire ça avec un reportage inédit, mais pas plus désormais avec une nouvelle. Donc, le site web, vous pouvez y aller tous les jours et vous allez trouver tous les jours quelque chose de différent. Mais le rappel, c'est-à-dire le fait d'être inscrit à l'infolettre de l'Express, ça fait que vous recevez chaque semaine un rappel avec les grands titres. Donc, ça vous permet de ne pas oublier d'aller au moins une fois par semaine sur le site.
D'ailleurs, le site a été rénové. Je trouve que ça a un nouveau look. C'est quoi qu'on dit? Look en français, il y a une expression française pour le look?
Bon, une apparence.
Est-ce qu'on dit le look ou la look?
Le look.
Alors, vous vous souvenez, cher ami, quand on avait la librairie Champlain? Hein?
Ben oui.
Ça, c'était la belle époque.
Eh ben, on a la librairie Mosaïque quand même aujourd'hui, ben, à l'Alliance française. C'est plus petit, mais on peut quand même commander tout ce qu'on veut.
Oui, il y a la Chasse-Galerie.
Il y avait la Chasse-Galerie, il y a très longtemps. Ouais. Ça, c'est Je pense que ça a disparu une année ou deux après que je sois arrivé à Toronto.
Parce que donc, je trouve ce qui est un peu, voilà, comme notre cher ami étudiant qui est ici, qui est avec nous, mais tant d'autres nouveaux immigrants qui arrivent ici, y compris des nouveaux Canadiens, hein, du Québec ou d'ailleurs du Manitoba, ils savent, ils connaissent très mal et c'est très difficile de comprendre la petite histoire de Toronto. Il n'y a que l'Express qui tient bon depuis très longtemps et peut-être quelques autres institutions.
Il y a le théâtre français quand même qui célèbre son 50e cette année, donc qui est encore plus vieux que nous tous. Il y a Radio-Canada, évidemment. Alors, il y a TFO. Il y a quand même quelques institutions
Est-ce qu'il y aurait de la place d'investir dans un genre d'archives francophonie, pour que ce soit là que l'histoire ne disparaisse pas?
Écoutez, bientôt, on va mettre en ligne tous nos articles depuis le tout début. Parce qu'on est en train de tout numériser.
Ça, c'est un scoop.
Nos articles depuis 1976. Je ne sais pas trop quand ça va arriver, là, parce que c'est une autre entreprise qui s'occupe de ça. Mais ça va arriver, effectivement, que tous nos archives seront disponibles pour les chercheurs et que toutes les copies, d'ailleurs, de l'Express seront entreposées à un endroit là, qu'on puisse voir ça.
Autre chose aussi que moi, je vais souligner, faut dire que le fondateur de l'Express, il est originaire de la Roumanie, Jean Mazaret.
Oui, effectivement.
Et ça prend du courage pour un immigrant arriver ici et développer un organe qui devient un peu l'organe référentiel, hein, de la francophonie, parce que vous nous partagez des nouvelles très importantes. Ça, il faut souligner aussi ces gens qui arrivent de l'extérieur et qui s'investissent. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas nécessairement Jean Mazaret ou encore tant d'autres.
Non, bien sûr. Et lui, à l'époque, il était étudiant en graphisme au Ontario College of Art.
Voilà.
Et il travaillait pour Courrier Sud, qui était un journal qui a duré 5 ans avant nous, qui couvrait non seulement Toronto, mais toute la péninsule. C'est pour ça que ça s'appelait Courrier Sud. Et lui, il était celui qui faisait la mise en page de ce journal-là en même temps qu'il était étudiant. Et quand le journal a cessé de publier, lui, il avait des tables de mise en page, un peu d'équipement. Alors, il a dit « je vais continuer ». Alors, c'est comme ça que l'Express est né. Dans la semaine même où l'autre journal fermait, le journal de l'Express ouvrait ses portes.
Bien. Est-ce qu'il y a des risques quand même pour vous de disparaître ou d'avoir des difficultés financières dans les prochaines années?
Il y a toujours des risques, évidemment, mais ce qu'il faut, c'est toujours soutenir l'intérêt des Franco-Torontois aux produits qu'on fait. Alors, si éventuellement et c'est difficile à Toronto parce que les francophones sont mobiles. Et ils reviennent pour 2 ans, ils repartent en France ou au Québec. Alors, c'est constamment un travail de démarchage à faire auprès de nouveaux arrivants. Presque toute la francophonie, c'est des nouveaux arrivants dans un sens. Il y a une partie de gens comme moi là qui sont là depuis très longtemps. Mais il y a vraiment une très grande mobilité et ça, c'est un handicap pour un média parce que quelqu'un qui débarque de France ou du Québec, il recherche pas nécessairement à Toronto des institutions francophones, que ce soit un journal ou un théâtre ou une radio. Alors, il faut les accrocher une fois qu'ils décident de rester. Et pour ce qui est du modèle, le modèle économique fonctionne encore, mais évidemment, tout dépend toujours de l'intérêt des francophones pour ce qu'on fait. Si jamais on fait quelque chose qui les intéresse plus, ben là, évidemment, on va manquer de lecteurs, puis on n'aura plus d'annonceurs parce que les annonceurs vont décider qu'il ne se passe plus rien là.
Oui. Alors, quel est votre mot, expression francophone préférée avant de partir?
Expression francophone préférée. moi, je dis souvent le temps, c'est de l'essence pour imiter les Anglais. Alors, c'est pas du tout une expression francophone, non. C'est même un anglicisme.
Oui.
Mais non, il y a beaucoup. Il y en a trop, évidemment, pour en choisir une.
Oui. Alors, écoutez, le 22, vous serez là parce que je pense qu'il y a une personnalité très, très importante qui aimerait faire votre connaissance.
Ah, donc,
oui? Oh, oui. C'est un secret. Ouais, bon, c'est une surprise. Oui. Non. Alors, donc, on sera là pour célébrer nos 30 ans, mais aussi célébrer l'anniversaire de tous nos partenaires, parce que c'est un prétexte d'utiliser ou de sauter sur cette occasion pour faire de la fête, mais c'est surtout pour rendre hommage à tous ces artisans qui font avancer à leur façon la francophonie d'ici et d'ailleurs. Alors, bravo, félicitations et merci encore d'être notre fidèle collaborateur et partenaire depuis tant d'années. Merci beaucoup, François.
Ben, c'est moi qui vous remercie et vous félicite.
Oh, merci. Bonne journée et passez une bonne journée de la francophonie demain.
Oui.
Au revoir. Employeurs, employés, connaissez-vous vos droits? Droits du travail en direct sur CUT 89,5 FM. Pour célébrer notre 30e anniversaire à l'antenne, nous sommes heureux de vous proposer une nouvelle chronique et un nouveau collaborateur et partenaire. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître Lamarche? Une fois par mois, Maître Lamarche du cabinet d'avocats Signe Lamarche, situé à Toronto, répondra à vos questions. Congédiement injustifié, congé de maternité, congédiement déguisé, droit de la personne, les obligations fiduciaires, les obligations post-emploi, le harcèlement au travail, les normes d'emploi, l'interprétation contractuelle, la rémunération pour des heures supplémentaires, les questions liées à la communauté LGBTQIA et les indemnités de départ. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître à la marche en direct à l'antenne.
Francophonie.
Avec vous Dominique Bayer, bonjour.
Dis madame, s'il te plaît, tu peux me dessiner un francophone?
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez tous les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
The sound of your city. CIUT 89.5, Toronto. Listen to us on the go with TuneIn Radio's free app or go to the live stream at www.ciut.fm. Right here, right now, every day. CIUT 89.5 FM.
Mois de mars 2017, mois de la francophonie, l'année 2017, 30 ans de radio à CUT FM. Du 5 au 26 mars, CUT FM et Poporuchot célèbrent leurs 30 ans. Chaque dimanche, soyez au cœur de la fête, de 10h à 13h sur 89,5 FM ou www.cut.fm. Le département de français Campus Saint-Georges et le département d'études langagières Campus de Mississauga à l'Université de Toronto et le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, s'associent à Poporuchot pour vous présenter Langue française, diversité linguistique. Le CREFO, 40 ans de recherche et d'enseignement. L'Express de Toronto, 40 ans d'existence. CUTFM, 30 ans de radio et de francophonie.
Tout au long du mois de mars, soyez au cœur de la fête et de la francophonie avec nos partenaires universitaires. Le 13 mars, avec un pot franco suivi de la projection du film « Monsieur Ibrahim, les fleurs du Coran ». Suivi de Soirée des talents le 16 mars avec le groupe populaire « Amélie et les singes bleus » sur le campus de Mississauga. Le dimanche 19 mars, soyez des nôtres en direct à CUTFM pour célébrer la Journée internationale de la francophonie avec une émission spéciale des invités, des correspondants à Toronto et sur les 5 continents. Du mardi 21 mars au vendredi 24 mars, la francophonie vous apporte le printemps avec des croissants. De 10h à 11h au département de français, campus Saint-Georges, Université de Toronto. Le mercredi 22 mars, cocktail, 30 ans de radio et soirée de reconnaissance des bénévoles au Hot House en partenariat avec le professeur Elie Bouraoui, fondateur du Centre Canada-Méditerranée à l'Université York. Mois de mars 2017, mois de la francophonie. L'année 2017, 30 ans de radio à CUTFM. Du 5 au 26 mars, CUTFM et Popourri Show. Soyez au cœur de la fête avec 57 pays qui célèbrent la beauté de la langue française et la diversité linguistique des peuples francophones. Chaque dimanche, soyez au cœur de la fête de 11h à 13h sur 89,5 FM ou www.cut.fm.
Messieurs, re-bienvenue à l'antenne de CUT 89,5 FM. Aujourd'hui, vous écoutez une émission spéciale dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie, journée qui est célébrée demain, le 20, à travers la planète. Et nous aurons tout à l'heure un message de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean. Et je suis ici bien entouré avec plusieurs invités à Toronto. Et dans un instant, nous allons nous déplacer pour aller visiter la ville fédérale du Canada. Quelle est cette ville fédérale du Canada? Comment s'appelle la ville fédérale du Canada, mes chers amis?
Ottawa.
Ottawa, bien sûr. Vous avez gagné.
Merci.
Le premier gagnant de cette émission.
Ça a failli être Kingston, quand même.
Oui, ça a failli être Kingston, mais pour l'instant, c'est Ottawa. Et nous sommes heureux. On parle toujours de vivre ensemble, que nous lance la secrétaire générale de la francophonie. Est-ce possible? Est-ce plutôt une utopie? Tout à l'heure, François Bergeron nous a parlé du changement, la mobilité des francophones, mais le changement démographique de la population francophone. Donc, langue française, diversité linguistique, diversité culturelle. Il y a plein de thématiques, mais aussi beaucoup d'obstacles, des fois. Et tout à l'heure, nous allons parler de cette francophonie ontarienne. La connaissez-vous? Quels sont les dossiers chauds de l'heure? Connaissez-vous les principaux acteurs et défenseurs des droits et des services en français en Ontario? Et on parle de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Est-ce que tous les gens qui nous écoutent à la maison ou ailleurs savent ce que c'est l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario? Dans un instant, nous allons parler avec le nouveau président de cette association provinciale ontarienne, Monsieur Carole Jolin. Monsieur Carole Jolin, merci beaucoup d'être là. Bonjour, comment allez-vous?
Bonjour. Très bien, et vous?
Oui, ça va. Alors, vous anticipez là de cette journée internationale de la francophonie? Vous avez des projets?
Ben, c'est une belle occasion de célébrer ici à Ottawa. On va avoir une célébration encore plus qui va venir véritablement cadrer avec la semaine de la francophonie. La semaine dernière, j'ai participé au lancement de la semaine de la francophonie à Toronto. Et puis, cette semaine, nous allons célébrer les 20 ans de la victoire qui nous a permis de garder notre hôpital francophone à Ottawa, l'hôpital Montfort. Oui. Donc, c'est une semaine qui a beaucoup, qui représente beaucoup pour les francophones en Ontario.
D'ailleurs, ça avait suscité beaucoup de réactions à travers le pays et surtout chez les Québécois qui trouvaient que souvent, les franco-ontariens ne militent pas assez, ne font pas assez, ce sont des pleurnichards. Il y avait toutes sortes d'articles, je me souviens, dénigrants même face à la communauté franco-ontarienne. Et ça a été toute une victoire, par contre.
Ça a été toute une victoire, ça a été tout un rassemblement. C'est probablement l'élément ou l'événement qui a le plus rassemblé la communauté franco-ontarienne. Et puis, encore aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire franco-ontarienne. Et c'est ce qu'on va commémorer cette semaine avec un grand rassemblement. On espère ramasser pouvoir réunir à nouveau 10 000 personnes au parc Lansdowne pour célébrer cet événement-là.
Alors, j'ai autour de moi plusieurs invités. Il y a Pascal Michelucci, qui est directeur du département de français à l'Université de Toronto, professeur Caroline Lebrec, Université de Toronto, campus Mississauga, professeur, écrivain, poète Eddie Bouraoui, et un jeune étudiant aussi qui est avec nous, Koya. Peut-être les gens ont des questions. La question que tout le monde se pose, M. Jolin, et d'ailleurs, bravo, félicitations pour votre nouvelle fonction, parce que c'est la première fois que vous passez sur nos ondes, et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Quelle est la difficulté, d'après vous, de faire rayonner votre organisme à l'échelle provinciale? Parce que moi, je parle à beaucoup d'auditeurs, de francophones natifs d'ici ou qui sont établis ici depuis très longtemps, et ils sont toujours surpris, ils ne connaissent toujours pas votre association. Comment se fait-il?
Ben, c'est un petit peu curieux parce que sur un plan, le mandat de l'Assemblée de la francophonie est double. C'est-à-dire, dans un premier temps, les organismes communautaires francophones en Ontario nous connaissent bien parce que la très, très grande majorité sont membres de l'Assemblée de la francophonie. Donc, l'Assemblée de la francophonie travaille beaucoup avec les organismes et agit comme rassembleur autour de tables de concertation. On a des tables de concertation dans trois grandes tables de concertation dans trois régions de l'Ontario et aussi il y a trois tables thématiques. Donc, les leaders de la francophonie, on les retrouve à ces tables de concertation-là. Et dans un deuxième temps, donc le deuxième mandat, c'est véritablement celui d'être la voix politique des franco-ontariennes et des franco-ontariens. Donc, ça, on travaille beaucoup avec, par exemple, le ministère des Affaires francophones, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, pour pouvoir faire avancer les dossiers de la francophonie. Mais... Donc, des fois, c'est possible que les gens, que Monsieur Tout-le-Monde, des fois, ne nous connaissent pas sur cet aspect-là. Mais je peux vous dire que sur le plan médiatique, nous sommes très, très, très visibles. Je crois que depuis mon élection, vous êtes ma 61e entrevue.
Ah oui, vous les comptez, hein?
Oui, je les compte. Ben, je dirais que ma directrice des communications se charge de les compter, justement. Ça fait partie des rapports qu'on fait à notre conseil d'administration.
Oui, elle est très compétente. Et Stéphanie le prêtre est très compétente, elle est formidable. On connaît tout le monde ici en français. Vous avez des questions, mes chers amis, invités autour de moi, autour de la table? Oui, Caroline?
Oui, cher Monsieur Jolin, vous avez parlé des dossiers. Est-ce qu'il y aurait un dossier marquant dont vous voudriez nous parler, qu'il soit actuel ou qu'il date, mais un dossier qui vous a marqué?
Il y en a plusieurs, mais celui-là qui nous touche particulièrement parce que nous avons trois livres blancs en chantier.
Pourquoi on les appelle livres blancs, Monsieur Jolin? Ça nous fait sourire un peu. Qu'est-ce que c'est le livre blanc?
Il y a tout un historique de ça politique qui recule jusqu'à 1920, si je ne me trompe pas. Ou est-ce que le livre blanc est un dossier qui n'était pas aussi important que les autres? C'est un dossier qui était plus petit, puis on les a simplement identifiés comme étant des livres blancs. J'ai l'impression que l'expression est restée.
Moi, je me souviens, quand j'étais petit garçon, on allait chez le chinois de la boutique à côté, il y avait le livre rouge, le carnet rouge, parce que on faisait de nos épiceries à crédit, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc il y avait le chinois qui gardait le livre rouge. Alors, le livre blanc, c'est autre chose.
Mais ce que le livre blanc est, en fait, c'est véritablement à travers des consultations. Ouais. Qu'on établisse l'état des lieux sur un sujet quelconque, et ensuite qu'il y a des recommandations qui sont avancées. Et à l'Assemblée, on va travailler avec ces recommandations-là sur le plan politique pour être capable de faire avancer le dossier. Et puis, le 23 cette semaine, nous allons rendre public le dossier de le livre blanc sur l'immigration. Mm-hmm. Et puis, déjà, on a commencé à laisser filtrer certaines recommandations. On l'a fait il y a 2 semaines. Et puis, suite à la publication du livre blanc, nous nous rendons à Moncton le 30 mars pour le sommet national de l'immigration francophone. Donc, nous allons utiliser, évidemment, les recommandations, les états de fait qu'il y a dans le livre blanc pour pouvoir discuter d'immigration francophone avec, premièrement, avec les autres provinces canadiennes à travers la Fédération des communautés francophones et acadiennes.
Oui. Alors, pour les gens qui nous écoutent encore une fois, qui ne connaissent pas toujours leur droit d'être francophone et de pouvoir accéder à leur place au soleil ici en Ontario et surtout pendant l'hiver. C'est un dossier très important pour le gouvernement fédéral. Hein. L'immigration, je sais, au Manitoba, Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup, beaucoup d'immigrants qui sont accueillis dans ces communautés hors Québec. Et c'est un atout pour vous? Parce que j'ai vu un reportage à Radio-Canada au mois de décembre de 2016. Et il y avait une diminution dans le flot des immigrants en Ontario, surtout immigrants francophones. Et je ne sais pas pourquoi ce désintéressement, mais d'après les études, Statistique Canada et autres, il y avait un rapport là qui est fiable. Et c'était à Radio-Canada. Quand Radio-Canada parle, tout le monde doit y croire, n'est-ce pas? Et décembre 2016, on disait que les francophones immigrants n'étaient pas intéressés à venir s'installer en Ontario. Êtes-vous au courant de ça?
Bien, pour un, il faut dire que toute l'immigration, au niveau de l'immigration francophone hors Québec, 70 % des immigrants francophones qui n'immigrent pas au Québec vont venir en Ontario. Donc, on reçoit quand même beaucoup de monde. La difficulté et pourquoi le dossier est extrêmement important pour nous, c'est qu'on a publié qu'en 2015, le taux d'immigration francophone en Ontario était de 1,9 % La cible que le gouvernement provincial s'est donnée en 2012, c'est de 5 % Et le 5 % ça équivaut ni plus ni moins à notre pourcentage de population francophone présentement en Ontario.
Donc,
si on veut garder notre poids démographique en Ontario, la même force politique et la même présence qu'on a présentement, c'est extrêmement important qu'on puisse atteindre ces cibles de 5 %-là. Et c'est pour ça que ça va être un des dossiers, évidemment, qu'on va discuter lors du sommet. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire travailler les gouvernements ensemble, le fédéral et le provincial, de travailler, de coordonner des efforts pour être capable d'atteindre cette cible-là. Sur papier, c'est très, très beau. Il y a des très, très belles politiques qui sont écrites au niveau provincial et fédéral. Mais quand on regarde dans le concret comment ça se traduit,
voilà.
On a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Mmh.
Alors, je sais que vous avez aussi beaucoup de subventions. Maintenant, vous appuyez les organismes, entre autres ces stages pour les jeunes qui est en partenariat avec le gouvernement fédéral, n'est-ce pas? Ça a beaucoup de succès, je trouve, de donner la chance. Je pense que c'est 52 semaines à des jeunes qui veulent avoir un stage dans un organisme, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Ce sont des programmes fédéraux,
voilà.
Qui connaissent beaucoup de succès. C'est un autre dossier, ça c'est véritablement une chance de faire, premièrement, de permettre à ces jeunes-là de travailler, d'acquérir de l'expérience dans un milieu francophone, et on espère qu'ils vont pouvoir continuer plus tard à travailler et à vouloir travailler pour la francophonie.
Je reçois un appel de quelqu'un sur mon portable en me disant, pour une gouvernance universitaire partout en Ontario, où en est ce projet, le projet universitaire francophone? Est-ce que ce projet est mort dans l'œuf?
Pas du tout. C'est un autre dossier qu'on suit très, très activement. Dans le moment, ce que le gouvernement provincial a fait, il a nommé Mme Diane Adam à la tête d'un conseil de planification en vue de l'établissement d'une université dans la région de Toronto. Et puis, véritablement, le travail de Mme Adam, c'est d'établir les bases, de voir comment on doit procéder, quelles sont les étapes, comment il faut faire pour pouvoir établir une université francophone à Toronto.
Monsieur Jolin, entre nous, s'il vous plaît, est-ce que c'est viable d'avoir une université francophone en Ontario, à Toronto?
Bien, le travail de recherche a été fait à ce niveau-là. Je peux vous dire que de toutes nos écoles francophones de la région, et là je vais parler du sud-sud-ouest, plusieurs écoles secondaires et puis nos gradués de ces écoles-là ne poursuivent pas leurs études en français parce qu'ils sont pas intéressés à se rendre à Sudbury ou à se rendre à Ottawa pour poursuivre. Et à Glendon, à Toronto, il y a une formation en français. C'est pas un très, très grand nombre de programmes. Donc, définitivement, il faut augmenter la possibilité de programmes en français. Et sur le plan démographique, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'ici 8 à 10 ans, ce n'est plus Ottawa qui va être le bastion de la francophonie en Ontario. Ça va être le Grand Toronto. Donc, on a un besoin déjà. On voit déjà Toronto du côté ouest, du côté de Milton, on va dire.
Peut-être un jour Toronto sera désigné ville officiellement bilingue, hein, parce qu'Ottawa a de la difficulté à se faire reconnaître au niveau de la ville
d'Ottawa. Oui, on s'entend là-dessus. C'est autre dossier qui fait partie de nos priorités, celui de pouvoir, faire déclarer Ottawa capitale bilingue. C'est un dossier qui doit se régler au niveau municipal parce que le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral ne veulent pas s'en aller. Et malheureusement, le maire de la place, M. Watson, est radicalement contre l'idée. Donc, c'est un dossier qui est extrêmement difficile à faire avancer.
Nous avons un jeune ici avec nous autour de la table, Coyard, qui est jeune et universitaire à l'Université de Toronto. Tu as une question pour
Bonjour, monsieur. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous parler. Durant mon séjour à Toronto, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques Canadiens qui, eux, n'étaient pas nécessairement francophones, mais qui avaient eu l'occasion d'apprendre le français à l'école. Et pour ces personnes-là, bien que le français soit intéressant pour eux, elles ne voyaient pas finalement l'utilité du français en Ontario et par extension dans le reste du Canada, à part le Québec. Et finalement, la création d'une université francophone, bien que je trouve que ce soit une idée très très noble, pensez-vous que dans la mesure où le français n'est pas rendu plus utile dans l'Ontario, à part dans les législations, par exemple, à Queen's Park, finalement, sans augmenter l'utilité du français en Ontario, la création d'une université est non pas vaine, mais peut-être pas aussi utile qu'elle ne sonne à l'oreille.
Bien, je suis pas nécessairement d'accord avec vous. Ce que je veux dire sur le plan de la francophonie en Ontario, si je recule quand je suis arrivé en Ontario, il y a énormément de chemin qui a été fait et je me souviens d'avoir vécu à Toronto en début de carrière et de parler français quelque part, on se faisait dévisager littéralement et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis l'université est un pas en avant dans cette direction-là pour permettre un continuum d'éducation de la petite enfance jusqu'à l'université. C'est un point extrêmement important. On vient tout juste, comme province, de joindre l'Organisation internationale de la francophonie. C'est une visibilité internationale qu'on est allé chercher de ce côté-là, que je crois qu'il va être profitable pour l'Ontario, qui vient communiquer et dire à quelques 120 pays, il y a possibilité de s'éduquer en français en Ontario. On a un excellent système d'éducation, de vivre en français à Toronto et en Ontario, pardon. Et même de travailler en français. Et il faut dire que dans les écoles, notre nombre de francophones dans les écoles n'a cessé d'augmenter. Du côté du français langue première, on a plus de 100 000 étudiants. Et du côté de l'immersion, c'est-à-dire des parents qui croient que le français est important pour les jeunes, il y a 200 000 étudiants et étudiantes dans les écoles élémentaires et secondaires. Donc, je crois que ce sont des facteurs qui envoient un message qui est très, très clair que la francophonie gagne beaucoup de terrain en Ontario comparé à ce qu'on a connu il y a 20 ou 30 ans.
Il faut aussi rappeler aux gens que dans le passé, les gens étaient tellement fatigués, ne voulant plus militer pour leurs droits en Ontario, ils allaient s'installer au Québec ou dans l'est de l'Ontario. Mais maintenant, je pense que ça a beaucoup diminué depuis quelque temps, n'est-ce pas?
C'est plutôt l'inverse qui se produit parce que j'ai eu l'occasion de discuter de la situation avec la ministre des Affaires francophones, Mme Marie-France Ballon, il n'y a pas tellement longtemps. Parce que pour chaque immigrant qui arrive au pays, il y a des sous que le gouvernement va donner pour aider à l'accueil. Et puis, ce qu'on me dit, c'est que très souvent, les gens arrivent du côté du Québec et vont demeurer au Québec 6 mois, 8 mois, 1 an, et s'en vont en Ontario après. Donc,
Pour je ne pense ça, pas, le... Monsieur Jolin, je dois vous interrompre. Je ne pense pas qu'ils déménagent par plaisir. Je pense qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail. Ils n'arrivent pas à se percer, faire un avenir au Québec. C'est pour cette raison qu'ils décident de venir en Ontario. C'est les histoires, les anecdotes qu'on entend depuis 30 ans à cette antenne.
Mm-hmm. Mais le travail est peut-être un des éléments les plus importants une fois que les gens émigrent au Canada. Et s'il y a du travail en Ontario, bien tant mieux. Et puis, ça explique pourquoi, justement, beaucoup de personnes vont venir du côté de l'Ontario après. Mmh. Donc, il y a un attrait. Et ce que je vois dans les communautés francophones, les organismes francophones, les gens s'impliquent de plus en plus dans les organismes et vont même prendre le leadership de ces organismes-là. Moi, je trouve ça fantastique.
Oui. Écoutez, nous avons vraiment beaucoup d'invités qui nous attendent sur les 5 continents, mais c'est très intéressant de discuter avec vous. Vous-même, vous êtes votre carrière professionnelle est dans le monde de l'éducation, donc on sent que vous avez un attachement particulier à ce sujet. Et j'espère que vous avez éclairé les lanternes de nos auditeurs, auditrices à travers le monde. Et pour les gens qui veulent avoir accès au site web de Mon Assemblée, vous allez sur www.monassemblée.ca et vous aurez tous les renseignements. C'est très, très bien fait. Vous avez un très beau site web, hein, je dois admettre.
Merci
et vous
beaucoup.
Êtes situé à Ottawa. Et encore une fois, mes sincères salutations à Stéphanie Leprêtre, qui est très sympathique d'avoir facilité cet entretien avec vous aujourd'hui. Et j'espère que... Que faites-vous demain pour la Journée internationale de la francophonie?
Demain, on se rend... je me rends à Sudbury, oui. Où est-ce qu'on rencontre... on a des activités communautaires avec...
Alors, Sudbury, avec pour les gens qui nous écoutent, c'est un peu plus au nord et il fait plus froid.
C'est à peu près à 4 heures au nord de Toronto.
Ouais, ouais. Quel est votre mot, expression préférée en francophonie?
Oh là là,
c'est pas mal.
Quand je parle des dossiers francophones,
ouais.
Je vais souvent dire il y a une lumière au bout du tunnel et ah, c'est pas un train. Voilà.
Ah oui, c'est bien ça, j'aime ça, la lumière au bout du tunnel. Écoutez, merci beaucoup encore une fois et bonne journée de la francophonie demain à tous les franco-ontariens et à toute votre équipe.
Ben, merci.
Au revoir.
Merci.
Chaque dimanche, découvrez les enjeux, l'histoire et les influences de la francophonie grâce au magazine de Radio France Internationale et votre radio CUT 89,5 FM.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, Toronto. Sound of your city.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Francophonie. Bonjour, au micro Thomas Chauvineau et au sommaire aujourd'hui, un prix littéraire un peu spécial, loin des grands classiques du genre.
Salut à tous, c'est Bob Sinclair, bienvenue dans le Bob Sinclair Show. un tout nouveau show rien que pour vous. J'espère que tout le monde est prêt, c'est parti.
Et oui, madame, monsieur, bienvenue à Toronto. Nous sommes en direct à l'Université de Toronto aujourd'hui, une émission spéciale. Et merci à ceux et celles qui nous envoient des tweets, des gazouillis, comme on dit. Ça, c'est un autre mot inventé dans la langue française. Au lieu de dire tweet, comme on le dit dans le monde anglophone, qui a inventé gazouillis d'ailleurs? C'est un très beau mot, n'est-ce pas?
Oui, c'est une bonne, belle traduction.
Ah ouais. Alors, je vous rappelle encore une fois que selon l'Organisation internationale de la francophonie, il y a 274 millions de personnes qui parlent français dans le monde. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Et cinquième langue, la plus parlée, elle est de plus en plus concurrencée, bien sûr, surtout avec les réseaux sociaux. Je dirais que le SMS aussi est devenu un problème pour les éducateurs de langue française. J'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs professeurs qui me disent que les élèves, les jeunes en général, et peut-être les adultes aussi, trouvent qu'on prend des raccourcis aujourd'hui, parce que le SMS, il faut être très court et bref, n'est-ce pas? On ne peut pas raconter un roman dans les SMS. Et finalement, on bifurque et puis on garde ces habitudes-là et finalement, on n'apprend pas à écrire correctement le français. Est-ce que c'est... Vous êtes d'accord?
Bon, c'est le principe de Twitter aussi qui, a, oui. qui donne la contrainte des, 104, des 150 unités pour exprimer quelque chose. C'est très important de savoir exprimer quelque chose de manière synthétique. Certes, il faut développer aussi en parallèle la manière d'aider les étudiants à développer leurs idées, mais la synthèse est tout aussi importante.
Oui.
Et c'est très créatif, les langages SMS. C'est très intéressant.
Oui, en effet.
À travailler.
Moi, j'ai pas d'objection, mais si on garde cette pratique et à un moment donné, par exemple, beaucoup, au lieu d'écrire beaucoup en pleine lettre, on dit BCP.
Oui, tout à fait. Mais c'est une pratique vivante. Alors, c'est une manière de faire vivre la langue aussi.
Il faut commencer quelque part. On ne commence pas tout de suite par écrire un livre. On écrit quelques caractères, ouais, quelques vers.
LOL, ça veut dire quoi? LOL.
Lots of love.
Hein, lots of love. Mais ça, ce n'est pas français.
Moi, si je n'utilise on... jamais.
Ouais. LOL, c'est bien français. Hein. Ouais. On n'est pas obligé de le dire en, au long en anglais.
Ouais. LOL. Et, je ne sais pas si le débat fait rage encore. Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot rage. Mais je sais, dans les années 70-80, les Français trouvaient que les Canadiens français, ou les Québécois surtout, avaient cette manie de tout traduire. Par exemple, au lieu de dire un hamburger, ils appelaient ça un chien chaud. Hein? Et or, ça n'avait pas de sens.
Oui, un hot dog qui devient, voilà, un chien chaud.
Un chien chaud. Même chose pour la pharmacie, drugstore. Hein? Et si vous allez en France, on utilise les termes anglais. Le show, par exemple, au lieu de dire émission, on dit le show, et pourquoi pas. Est-ce que dans le paysage et l'univers francophone, il faut absolument rester à la règle de la francophonie? Ou y a-t-il une certaine liberté pour qu'il y ait justement une évolution? Parce que la langue, la culture évolue, n'est-ce pas?
C'est un signe de vitalité quand une langue est capable d'absorber des influences étrangères et de les intégrer à sa logique, à sa fibre. Ça fait une langue qui vit, qui évolue, qui n'est pas coincée sous cloche comme dans un musée.
Oui. Oui. Est-ce qu'il faut avoir des limites quand même? Parce que si on laisse aller à une trop grande liberté, il peut y avoir des dérapages et ça risque d'abîmer la langue française, n'est-ce pas?
Disons que c'est important de garder une langue française peut-être de référence, mais la diversité de la langue française doit être avant tout mise en avant.
Alors, je pense que notre prochain invité est prêt. Il est quelque part, il a pu stationner sa voiture quelque part, parce que conduire et faire un entretien à la radio, c'est pas recommandable, n'est-ce pas? Nous allons nous déplacer à Montréal, madame, monsieur, discuter avec le co-directeur général et directeur de la commercialisation de la maison d'édition Prise de Parole. Oui, bonjour. Est-ce que Stéphane est là? Oui?
Oui, je suis là.
Ah bon, on a eu un peu de difficulté là. J'avais des frissons. J'avais une peur bleue.
Mais rassurez-vous, mais je vais vous dire que je ne suis pas à Montréal, je suis à Moncton.
Ah! Mon Dieu, vous vous baladez comme ça dans ce grand pays, ce grand territoire. Ça, c'est aussi un autre aspect que les autres francophones, surtout nos amis français, suisses et belges, ils n'arrivent pas à comprendre et à saisir l'immensité de ce territoire. Hein. Alors, que faites-vous en ce moment à Moncton?
Mais, Prise de Parole est une maison d'édition essentiellement basée à Sudbury, en Ontario, mais depuis un peu plus d'une dizaine d'années, on publie aussi des Acadiens. Donc, il y avait une maison d'édition très importante en Acadie qui a fermé ses portes. C'était les éditions d'Acadie. Et à l'époque, Denise Truax, qui est à Prise de Parole depuis plus de 25 ans maintenant, avait décidé de faire le saut et de commencer à publier des Acadiens parce que la maison d'édition, la fermeture avait créé un trou. Mm-hmm. Donc, je suis venu à Moncton pour lancer un livre d'Hermine et Gilles Chiasson vendredi dernier.
Ah oui? Alors, il faut rappeler aux gens que vous avez sur votre site tout un florilège d'œuvres et littéraires depuis quelques années. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont eu des prix, que ce soit au Canada ou en Ontario ou ailleurs. Vous publiez au moins 16 à 18 ouvrages par année, c'est beaucoup?
Mais pour une petite équipe de trois permanents, je vous dirais que c'est une bonne production, effectivement. Mm-hmm. C'est un rythme de croisière qu'on a établi là, depuis quelques années et puis qu'on essaie de maintenir parce qu'une maison d'édition qui a plus de 40 ans d'existence aujourd'hui, bien sûr, on a plusieurs auteurs confirmés qui publient avec nous depuis longtemps puis qui continuent à écrire, à produire. Donc, on veut être capable de continuer à les publier, mais en même temps aussi, on veut faire la place pour des nouvelles voix. Donc, on doit aussi aménager un espace pour les nouveaux auteurs. Donc, ça fait en sorte qu'on essaie de maintenir là, notre rythme de publication à 16-18 pour trouver cet équilibre-là entre les auteurs qui sont fidèles et puis les nouveaux aussi qui veulent se faire publier.
Alors, j'ai plusieurs invités autour de la table avec moi. Peut-être ils ont des questions. J'ai Pascal Michelucci, qui est directeur du département de français à l'Université de Toronto, ainsi que professeur Caroline Lebrecq à l'Université de Toronto.
Bonjour.
J'ai Koya Bradley Kuse, qui est un jeune étudiant à l'Université de Toronto, qui a eu le courage, croyez-le ou pas, de nous envoyer, de participer à notre concours littéraire, poésie, expression francophone. Alors, il est avec nous. Alors, peut-être ces gens ont des questions. Ce n'est pas évident pour les maisons d'édition hors Québec d'aider et de développer justement les œuvres littéraires. Premièrement, est-ce que c'est facile de trouver des auteurs qui cadre avec les critères de votre maison? Je sais que sur votre site, vous avez des exigences que vous demandez aux jeunes auteurs ou aux auteurs francophones en Ontario. Est-ce que c'est facile pour vous d'aller dénicher les nouveaux talents dans le monde littéraire hors Québec?
Ben, je dirais pour ce qui est des critères, chaque maison d'édition a un peu une ligne ou une personnalité. Mm-hmm. Donc, effectivement, nous, on publie certains types de livres, donc plus spécifiquement bon, des romans, de la poésie, du théâtre, puis aussi des essais sur les études canadiennes. Donc ça, c'est commun à toutes les maisons d'édition. Chacun en publie dans nos créneaux. Et puis... pour ce qui est du recrutement des nouveaux auteurs, ben effectivement, travailler à partir de Sudbury en milieu minoritaire pose un certain nombre d'enjeux. Le premier que j'identifie, là, c'est celui des universités, hein, parce que quand on est dans les grands centres, par exemple, si je prends Montréal, on a des universités qui produisent des écrivains dans le cours de leur cursus. Tu sais, on a des gens qui étudient au bac, à la maîtrise. Mmh. Puis quand ils sortent de la maîtrise, ils ont 3, 4, 5 heures de pratique d'écriture derrière eux déjà. Puis ils prennent leur mémoire de création littéraire. Puis à ce moment-là, ils vont voir un éditeur. Puis là, l'éditeur fait un peu travailler avec eux. Mais essentiellement, à travers l'université, les étudiants ont déjà commencé à avoir une pratique d'écriture sérieuse. Mmh. En Ontario français... c'est peut-être à l'Université d'Ottawa, oui, il y a quand même une quantité d'étudiants qui étudient les lettres, mais à Sudbury un peu moins. Donc, on n'a pas toute cette infrastructure-là d'université qui nous donne des gens qui ont une pratique d'écriture. Donc, comme éditeur, on va faire beaucoup de travail avec les jeunes auteurs comme ça.
J'ai professeur Bouraoui qui est avec moi, que peut-être vous avez entendu parler, qui est là depuis très longtemps, n'est-ce pas?
Oui,
professeur Bouraoui, vous avez vu l'évolution de...
Oui, je l'ai vu dès le départ, oui. D'ailleurs, presque. Avec Gaston Tremblay, oui. Denis Truax, je les connais très bien. Mais moi, je voudrais lui poser une petite question, c'est à savoir comment est-ce que la maison d'édition... essaie de diffuser les livres qu'elle produit et surtout les faire lire. C'est ça la question primordiale qui se pose, je crois, pour chaque écrivain. Vous publiez un livre, d'accord, c'est bien, vous arrivez à publier un livre. D'ailleurs, j'ai moi-même publié dans Prise de parole une anthologie d'essais avec mon collègue Ali Rigui.
Oui,
exact. Et donc, c'est pour faire lire, moi, c'est ça qui m'intéresse. Si je produis un bouquin, quel est le lecteur, quel est le lectorat, quels sont les gens qui vont s'intéresser à cette littérature-là? Bon, quand j'étais professeur, titulaire de poste à York, j'ai mis un cours pour l'enseignement de la littérature franco-ontarienne. Depuis que je suis parti, le cours ne se fait plus. Alors, c'est ça mon problème, c'est le problème de la lecture de ces textes-là. Voilà.
Ouais. Alors, très grande question, on pourrait faire toute une émission là-dessus.
Ah oui, oui, oui.
Ouais. Alors, rapidement, parce que le temps presse, nous avons plusieurs autres invités qui nous attendent.
Ben, je vous identifie un enjeu qui est crucial, parce que effectivement, publier des livres, c'est une chose, mais ensuite, les faire vivre, ces livres-là, puis les faire lire, c'en est une autre. Donc, je vous dirais qu'on a une palette d'outils à notre disposition, les éditeurs, prise de parole comme les autres en Ontario français. Mmh. Donc, on travaille de concert avec un diffuseur, hein, par exemple, qui, lui, va partir avec sa valise, puis il va aller voir tous les libraires du Québec, de l'Ontario, de l'Acadie, et partout au Canada, pour présenter les nouveautés qu'on publie. Donc, à ce moment-là, dès qu'un livre est mis en marché, bien, il y a des centaines d'exemplaires qui s'en vont, c'est à géométrie variable, bien sûr, parce qu'on évalue le potentiel de chacun des livres, mais ça s'en va dans les librairies. Ça fait que ça, c'est de un. Les livres sont présents en librairie. De deux, on fait toutes sortes d'initiatives de commercialisation pour annoncer l'apparition de ces nouveautés-là, puis aussi on inscrit des auteurs dans un réseau d'événements, hein, un peu à travers le pays, de salons du livre, de foires littéraires, pour que les auteurs puissent avoir un contact direct avec leur lectorat. Donc, ça leur permet aux idées et aux auteurs de voyager. Et puis, à ce moment-là, on essaie de capitaliser sur toutes les opportunités qu'on a, parce qu'effectivement, dans les milieux minoritaires, puis même au Québec aussi, c'est vrai, le lectorat est en train de changer. Hein, vous parlez beaucoup de numérique à votre émission, et puis le numérique change aussi les habitudes de lecture. La capacité d'attention n'est pas nécessairement la même. Et puis, ça, c'est des enjeux avec lesquels on doit faire attention quand on commercialise nos livres aujourd'hui. Oui. Alors, donc, le lectorat change.
Oui. Stéphane Cormier, je dois malheureusement vous interrompre parce qu'on me dit que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie doit nous envoyer un message et on a des décalages horaires et il y a un certain temps qu'on doit libérer nos antennes pour accéder à ce message. Mais merci infiniment pour les cadeaux que vous avez remis à l'émission dans le cadre de nos 30 ans. C'est très bien apprécié. Les jeunes à l'université vont en recevoir. Et merci aussi pour les deux auteurs, André Lasselle. Et je pense qu'il y a aussi
Véronique Mariquet.
Voilà.
Exactement, que vous avez reçu.
Exactement. Alors, un grand merci. Et nous allons garder contact avec vous pour voir aussi comment décloisonner ce problème de lectorat, mais aussi faire connaître les livres et les auteurs francophones de l'Ontario dans les grands salons du livre, que ce soit en France, en Belgique, au Québec, ou encore en Afrique, ou à l'île Maurice, pourquoi pas. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, et on se parle très prochainement, et bonne journée de la francophonie demain.
Oui, merci de votre invitation, puis félicitations pour votre programmation du mois.
Oui, merci. À très bientôt, et surtout, soyez prudents si vous êtes sur la route.
Merci.
Au revoir. Alors voilà, donc cette fois-ci, très intéressant, on pourrait en parler pendant très longtemps, mais Stéphane Cormier, madame, monsieur, depuis 1973, cette maison a publié plus de 400 titres et quelques 150 auteurs. Très important. Prise de parole, merci. Dans un instant, nous allons passer à la secrétaire générale qui nous attend à Paris pour nous partager un peu ses voeux dans le cadre, d'ailleurs vous la connaissez, hein, elle est canadienne, elle était gouverneure générale du Canada et aujourd'hui elle est à Paris, mais elle sillonne la planète pour participer aux différents développements de projets à travers le monde et nous envoie un message que voici.
Le 20 mars, journée internationale de la francophonie, est l'occasion de dire, de clamer haut et fort combien la langue française est notre trait d'union sur les 5 continents. Nous avons en effet su faire de la langue française, que nous avons en partage, un vecteur irremplaçable d'unité avec la richesse de toutes nos diversités. Un ensemble soudé, solidaire, un ensemble indivisible, toujours plus visible, plus entendu et par conséquent plus attendu. Quelle chance ! Oui, la francophonie est une force de proposition et d'action et une plus-value pour le monde qui a tant besoin de cet humanisme intégral, de cette humanité commune que nous défendons. Dans la francophonie, nous faisons résolument le choix de la rencontre, de la découverte, de la compréhension mutuelle, d'interrelations solidaires et stratégiques au service de l'action et des valeurs universelles qui nous fédèrent. Nous préférons ne pas être des dépositaires isolés, mais des passeurs interconnectés de nos traits de civilisation, de nos savoirs et de nos savoir-faire, de nos combats pour les droits et les libertés, de nos initiatives citoyennes, de nos réussites économiques et écologiques, de nos expériences et de nos solutions. Nous savons, face aux menaces, aux défis et aux urgences du moment, que c'est collectivement qu'il faut répondre pour faire advenir un monde plus équitable, plus harmonieux, plus stable. Plaçons cette journée internationale de la francophonie sous le signe du partage. Partage de ce que l'on aime, de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce qui nourrit nos convictions et nos engagements. Affichons-nous sur les réseaux sociaux, sur la plateforme « J'aime, je partage, mon 20 mars » et sur libresensemble.com. Saisissez cette occasion pour montrer ces gestes que vous posez autour de vous, ces idées que vous défendez à votre façon, à grand renfort d'imagination et de créativité, votre volonté de coopérer, de co-construire un projet à la hauteur des aspirations et de la dignité de toutes les femmes et de tous les hommes. Les technologies de l'information nous le permettent, mais elles ne valent que si elles génèrent une véritable culture de la solidarité et de la fraternité, une véritable éthique du partage. Or, la francophonie, c'est tout cela. Partager, échanger, qui ne veut pas dire s'accorder sur tout, mais vouloir justement apprendre de nos différences, parce que les différences sont naturelles et fructueuses, et c'est la seule façon de comprendre enfin que ce qui nous rapproche est plus fort que ce qui nous sépare. Alors que ce 20 mars soit le grand rendez-vous du donner et du recevoir à l'échelle de la planète, le grand rendez-vous d'un nouvel humanisme qui se dit aussi en français.
RFI, la radio mondiale. Il y a ce que vous écoutez sur la radio mondiale et il y a ce que vous écoutez ailleurs, mais qui passe aussi par RFI. Car sur les 5 continents, plus de 600 radios programment des émissions ou des musiques réalisées, concoctées, sélectionnées par l'équipe de la production musicale. Il s'agit en fait d'un formidable courant d'échange entre RFI et ses radios partenaires. C'est tel groupe angolais dont la cassette nous est envoyée par Radio Luanda et dont les meilleurs extraits vont repartir via RFI vers le Chili, le Vietnam, les États-Unis. C'est aussi cet invraisemblable joueur de vielle que nous envoie Radio France Puy-de-Dôme et que l'on va écouter à Lima, Jakarta ou Kampala. Chaque mois, 8 programmes musicaux sont proposés aux radios du monde entier. Beaucoup de chansons françaises, bien sûr, mais aussi un hit parade européen, une sélection de musique tropicale, du jazz, du classique, de la musique traditionnelle et parfois de la salsa.
Et oui, qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce que vous avez retenu dans le message de Michael Jean?
Et moi, ce que j'aime bien, c'est ce que j'entends depuis quelques années autour de la célébration de la semaine de la langue française et de la francophonie. C'est que le français est une langue de culture, de connexion entre les personnes, qui célèbre la diversité. Et ça change beaucoup de ce qu'on entendait dans les années 90, où on avait vraiment cette velléité de pousser la concurrence entre le français et l'anglais, et d'affirmer le français comme une langue économique, de marketing.
Et le français, c'était surtout hexagonal à l'époque.
J'ai l'impression que le discours a changé maintenant. Ouais. Et le français a embrassé son héritage d'être une langue de diplomatie, d'être le trait d'union entre des cultures. Et ça, je trouve ça très.
Ça, c'est-à-dire la langue française est notre trait d'union sur les 5 continents. Elle est un vecteur irremplaçable d'unité, capable de faire de toutes nos diversités un ensemble soudé et solidaire, un ensemble indivisible, toujours plus visible, plus entendu et par conséquent plus attendu. Saisissons cette chance. Est-ce que la langue française ou la francophonie peut améliorer le sort des peuples aussi? Parce que dans certains de mes milieux où j'œuvre, des fois, on parle toujours de la culture, on parle de la littérature et on parle de la musique. Et on reste dans certains pays, même en Afrique ou ailleurs, très folklorique quand on parle de francophonie. Et or, il y a un changement de cap, je pense, avec Michael Jean, qui parle aujourd'hui de politique, qui parle de religion, qui parle de la place des femmes, qui parle de l'avancement du numérique, comment utiliser le numérique justement pour faire avancer les dossiers. Ça, c'est un, comme disait Pascal, on a changé de cap depuis quelque temps. Oui, Caroline.
Tout à fait. Pardon, et c'était un très 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 beau message et je relèverai le terme de différence dont elle a parlé. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui est le message principal que l'on pourrait retenir. C'est l'anthropologue Françoise Nourricier qui disait que les différences ne signifient pas les inégalités. Et en cela, d'avoir des messages tels qu'on vient d'entendre rentre vraiment dans ce cadre unificateur, rassembleur et métissé.
Il y a encore, d'après vous, professeur Bouraoui, des laissés pour compte dans le monde de la francophonie, parce que, par exemple, les transgenres, la communauté LGBT, même les pauvres, ceux qui n'ont pas voix au chapitre dans les grandes instances de nos institutions, est-ce que les acteurs, les actrices, les leaders dans le monde francophone prennent en considération les besoins de ces gens vulnérables, de ces peuples vulnérables, ceux qui ont le VIH, la SIDA, par exemple? Est-ce que là aussi, on ne devrait pas changer de langage pour faire avancer les dossiers?
Écoutez, moi, je suis d'accord avec Pascal et Caroline, ce qu'elles ont dit, c'est vrai, c'est un beau discours. Mais à mon avis, j'aime beaucoup les gens que je connais, que j'ai rencontrés, j'ai eu le plaisir de la rencontrer et de bavarder avec elle. C'est que ça reste toujours très général et très vague, à mon sens. Il faut intervenir, comme vous venez de le dire, pour les gens qui sont pauvres, pour les gens qui sont sans voix, et leur donner la voix au chapitre. Malheureusement, la France et les bailleurs de fonds diminuent ces fonds-là. Le Canada aussi. L'Afrique ne peut pas plus se permettre de financer ce qui est question de langue et de culture. D'accord ? Nous sommes là d'accord. Nous sommes d'accord avec la diversité, nous sommes d'accord avec tout, mais il y a un problème, je crois, fondamental.
C'est structurel, peut-être.
Oui, structurel, d'abord. Et surtout financier, Eric. On voit que les budgets diminuent de plus en plus. Je prends un petit exemple de rien du tout. Le consulat de France à Toronto. Eh ben, avant, le 14 juillet, on avait des grandes fêtes, on avait des réceptions, mais ils ne peuvent plus se permettre ce genre de choses-là. Vous comprenez ? Ça, c'est un truc vague et général aussi. Mais bon, mais par exemple, au départ de la francophonie, quand il y avait la CCT, l'Agence de culturel et l'Agence technique, on produisait des livres à bon marché. Je prends Sonny Laboutancy, ou je prends Paul Dacaillot, ou je prends des auteurs tunisiens, etc., et d'autres de toute l'Afrique. Et on produisait des livres qui ne coûtent pas cher pour que les gens puissent lire. Aujourd'hui, depuis qu'on a eu le président du Sénégal, Abdou Diouf, cette question-là est de passer du culturel à la politique. Et moi, je pense que ce qu'essaie de faire maintenant Michael Jean, c'est de revenir à cette histoire de dialogue et de partage. Mais le dialogue et le partage se fait aussi d'une manière concrète et visible. Voilà.
Alors, je pense que nous avons compris le message, mais moi, j'irai un peu plus loin, mais nous n'avons pas le temps lors de cette émission. Il ne reste que 30 minutes et nous avons encore plusieurs invités qui nous attendent. Je prends le cas d'Haïti parce qu'elle est haïtienne. Depuis le tremblement de terre en 2010, les gens souffrent encore en Haïti en 2017. Ils dorment encore sous les tentes. Or, il y a toutes sortes d'aides qui se sont intervenues sur le terrain. Mais qu'est-ce qui se passe? Je parle à des collègues, des amis haïtiens, des auditeurs haïtiens. Les gens sont découragés, sont même dégoûtés de la situation parce que malgré tout l'argent, tous les fonds qu'on envoie dans ce pays, on n'arrive toujours pas à améliorer la vie de ces pauvres qui vivent sous des tentes. C'est inhumain. En 2017, d'avoir une capitale Port-au-Prince, très beau pays, Haïti, et d'avoir des gens encore qui vivent sous les tentes. Que font ces instances pour forcer la note? La même chose en Afrique. Il y a des droits humains qui sont agressés tous les jours. Il y a des gens, parce qu'ils sont de différentes divergences politiques ou orientations sexuelles ou autre, on les emprisonne, on les tabasse encore. Et que font l'ONU? Que font ces gens qui siègent à l'ONU? Que font les autres instances? Et je pense que l'Organisation internationale de la francophonie devrait aussi être ce moteur, ce vecteur pour la défense des droits de la personne, il me semble. Tout en gardant l'aspect culturel, l'aspect voyage, l'aspect exotique, l'aspect gastronomique.
Mais de recentrer sur l'humain.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, je sais que je parle trop. Nous allons cette fois-ci descendre sur les plages de l'île Maurice avec un ami assez original. Allez voir. Et oui, madame, monsieur, vous écoutez une émission spéciale aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie. J'ai en ma compagnie plusieurs invités intéressants ici et à Toronto et dans le monde, au Canada et dans le monde. Et nous allons recevoir tout à l'heure professeur Emmanuel Nikema, qui est directeur du département d'études langagières au campus Mississauga à l'Université de Toronto. Mais pour tout de suite, nous allons descendre sur les plages d'une île qui fait partie du Commonwealth, mais aussi de la francophonie. Vous allez voir, l'île Maurice. D'ailleurs, on a déjà tenu un sommet de la francophonie dans cette île. Vous avez déjà été, Pascal? Oui.
Ah non, mais j'en rêve.
Vous rêvez, oui. L'île de la Réunion, ça vous dit quelque chose? L'île Maurice, Madagascar?
Oui, ça me dit d'y aller.
Très bien. Et ce qui est bien dans cette île, c'est que ces gens reprennent les chansons comme Stromae ou les grandes chansons françaises et les traduisent, il y a des DJ hein, qui les traduisent dans, en créole ou encore un rythme rap, créole, disco, dance, Bollywood dancing. Alors, parce qu'il y a une très grande majorité d'hindous. Mais ce sont des Mauriciens. On ne dit pas hindous, chinois, mauriciens, sino-mauriciens, indo-mauriciens. On les appelle des Mauriciens et non des Martiens. Et je pense que nous avons Percy Iptong. Bonjour. Est-ce qu'il est là? Est-ce que nous avons notre invité qui est avec nous? Alors, on a un peu de difficultés. Pour l'instant, nous allons parler brièvement avec notre ami
Koya.
De son, vous avez eu l'occasion de lire un peu brièvement son
oui.
extrait, oui.
Absolument,
alors, pour les auditeurs qui ne peuvent pas nous voir ou lire en direct avec nous, parlez-nous un petit peu ce qui t'a inspiré pour nous envoyer ce texte.
Alors, c'était un texte qui était censé décrire 10 expressions en français et j'ai été mis au courant par le biais d'un email du département de français. Et j'avais un peu de temps libre et ce qui m'a inspiré, c'est le style un peu enfantin de Boris Vian. Je ne voulais pas faire une définition de 10 expressions un peu à la Victor Hugo ou enfin, un truc un peu pompeux. Je voulais plutôt faire quelque chose de léger. Et c'est de là que j'ai puisé mon inspiration pour le texte.
Oui. Alors, en deux mots, si tu avais à nous brosser un tableau du fil conducteur de ce texte.
Ça aurait été un quatrain pour chaque définition.
Oui.
C'est juste le fil conducteur, je me suis posé ça comme objectif et j'ai essayé de le faire.
Oui, il a joué aussi sur les mots, les expressions, n'est-ce pas, Pascal? Oui.
Oui, moi ce que j'aime beaucoup, c'est comment les expressions sont intégrées dans le sens. Hein. C'est vraiment magnifique, ça dit quelque chose. Ça fait jouer un tout petit peu les expressions figées, attendues, les clichés. Et ça en tire quelque chose. Hein. Par exemple, j'aime beaucoup celle de tirer les vers du nez.
Oui.
C'est tout un passage, tirer les vers du crâne, tirer les vers du nez. Puis il y a le jeu de mots sur les vers de terre et les vers de poésie.
Oui. Alors, madame, monsieur, nous avons quelques minutes encore pour aller à l'île Maurice. Ce sera très rapide. On a eu de la difficulté avec le décalage horaire. Il est directeur artistique de Cyper Productions et correspondant de notre émission depuis plusieurs années. Il est venu à Toronto avec plusieurs artistes créoles mauriciens pour nous présenter le Séga. C'est la culture même racine de l'île Maurice. Percy Iptong, bonjour.
Bonsoir, ici c'est la nuit.
Oui, alors, bon, on ne va pas se jouer sur les mots entre la nuit et le soir et le jour et la nuit. Mais merci beaucoup d'être avec nous et de prêter votre voix, ta voix à cette émission spéciale dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie. Alors vous venez de célébrer votre indépendance, hein, l'indépendance de l'île Maurice la semaine dernière. Est-ce que la francophonie est encore très vivante, très à la mode, très en vogue chez vous?
Ben, malgré que toutes les fêtes nationales de l'indépendance depuis 49 ans, le protocole officiel est en anglais. la langue française est beaucoup plus dominante à l'île Maurice que la langue officielle qui est la langue anglaise.
Oui.
Tout simplement parce que notre langue maternelle, c'est la langue créole, qui est d'origine française, incluant aussi des mots africains, chinois, hindous, comme nous avons toutes ces cultures à Maurice. Mais nous sommes à la base même francophones. Mmh. Même si la scolarité est en anglais, par exemple, un enfant de 5 ans, il arrive à l'école primaire, il apprend dans une langue étrangère. Il n'a jamais parlé anglais chez lui.
Mais...
parce que toute l'école est enseignée, tout l'enseignement est en anglais.
Alors, il y a des alliances françaises.
Francophones.
Oui, il y a des alliances françaises. Il y a aussi des instituts de français, je pense. Comment on les appelle ça? Des instituts français qui
Institut
sont...
français de l'île Maurice.
De l'île Maurice, voilà.
Il y a des lycées français aussi, il y a des lycées, des écoles, des collèges français.
Mais
dans le système éducatif, cela représente 7% uniquement et tout le reste est en langue anglaise, le système éducatif.
Alors ce qu'il faut aussi dire aux gens, les magazines, les revues, les journaux, ça pullule de partout à l'île Maurice, les gens achètent et tout ça se passe majoritairement en français. C'est un peu un miracle pour la francophonie dans le coin perdu de l'océan Indien, n'est-ce pas?
Ben justement, c'est ça qui est rigolo. La langue française est dominante.
Voilà.
Toute la presse locale est à 95% en langue française. Donc les gens, ils parlent créole francophone ou français chez eux, presque pas anglais. Beaucoup de familles parlent français chez eux.
Ouais.
Donc finalement, c'est un peu quelque chose de spécial. Nous sommes une île où la langue officielle est l'anglais, mais le français est dominant uniquement parce que nous avons vécu un siècle de colonisation française avant que Napoléon cède à l'époque quand il fait la guerre Maurice aux Anglais.
Mmh.
Et donc la racine est française, et après qu'on a eu l'indépendance, on l'a eu après un siècle de colonisation anglaise qui nous a fait faire que toute l'administration est anglaise, le système éducatif en anglais, le Parlement c'est Westminster avec le bipolarisme, avec un parti travailliste comme en Angleterre, mais le peuple est en racine francophone, vraiment. Moi, j'ai une tête de Chinois, mais je suis mauricien, mais francophone.
Ouais. Alors, pour terminer, nous devons malheureusement vous laisser là parce que vous allez participer à nos émissions dans les mois, les semaines à venir, parce que vous faites des choses très intéressantes. Mais je veux absolument qu'on explique aux auditeurs qui sont avec nous en studio, mais aussi sur Internet, partout à travers la planète, qu'est-ce que c'est la pomme d'amour à l'île Maurice?
La pomme d'amour, c'est une tomate un peu plus petite. Et en fait, j'ai retrouvé dans le sud de la France, la Côte d'Azur, en Provence et tout, il y en a qui appelaient ça aussi pomme d'amour.
Ouais.
Donc peut-être ça vient de la France.
Et c'est une tomate.
Et pour terminer, si je vous dis, pour que vous compreniez bien que le créole est bien francophone, si je vous dis gentiment, si mocose créole doucement, tout Canadien comprend comme mocose créole.
Ah voilà, oui, donc, on a compris.
Si vous jeûnez, voilà.
Et pour terminer, une autre note pour terminer, cette fois-ci pour de vrai. Qu'est-ce que c'est le chouchou? Parce qu'ici, on appelle ça des Christophines.
Ben, le chouchou, c'est Christophine, exactement, en France. Par contre, tout le monde l'appelle Christophine, et nous, on l'appelle chouchou.
Voilà.
Et alors, même si je vais plus loin, il y en a beaucoup de villages et de villes qui ont des noms français. Bel Air, Curpip, Quatre Bornes, Rivière Noire, donc même les villages, les noms de villes et les villages sont majoritairement en langue française. Ouais. Il y a des villes aussi en anglais, bien sûr.
Alors écoutez, Percy, continuez à nous faire rêver, voyager avec vos artistes dans l'océan Indien, mais aussi africain. Vous en faites beaucoup pour le développement de la culture créole et africaine. Bravo, félicitations et bonne journée de la francophonie demain. Merci encore.
Merci, il se peut qu'on revienne avec Lady Backbone.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Alors, vous avez appris quelque chose, mes chers amis? Hein?
C'était très
pédagogique.
Et très diverse, cette francophonie. Hein, oui. Parce que je pense qu'il y a 60% de personnes d'origine indienne à l'île Maurice. Et le reste, c'est partagé entre les Asiatiques et d'autres communautés, entre autres créoles, européennes, chinoises. Mais on les appelle des Mauriciens. Et c'est bien de voir tous ces gens, je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours cet engouement, je dis bien cet engouement, pour la langue française. Et malgré les obstacles et les défis de l'Internet, des médias, alors c'est rare, n'est-ce pas?
Oui, c'est peut-être parce que c'est une île et la langue vivante vit très bien. Elle a tendance à se occuper tout l'espace dans une petite île.
Oui. Donc il faut peut-être se déménager, n'est-ce pas, et aller vivre sur les îles pour garder sa langue et son esprit aussi. Alors je pense que nous sommes prêts. Nous avons notre invité rapidement. C'est votre collègue d'ailleurs. Vous savez qu'il y a beaucoup de professeurs à l'Université de Toronto qui nous soutiennent, et je dois encore une fois vous dire un grand merci de la part de tous nos auditeurs et de CUTFM pour votre partenariat. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer, voyager chaque année. Et cette année, c'est un peu important, hein, c'est même très très essentiel pour nous, c'est de célébrer nos 30 ans avec les départements de français à l'Université de Toronto. Et merci pour cela, et j'espère que le 22, ceux qui seront là seront choyés, seront heureux d'y être.
On portera un toast,
oui.
Tout ça.
Oui, oui, oui. Alors, nous avons notre invité, votre collègue qui est là, qui nous attend. C'est le professeur Emmanuel Nikema, qui est directeur au département d'études langagières au campus de Mississauga, l'Université de Toronto. Bonjour, professeur.
Bonjour, Eric. Comment allez-vous?
Ça va bien, on s'excuse, hein, parce qu'on a des problèmes de transport en ce moment. Oui, ah oui, la francophonie, hein, les 5 continents, c'est pas évident. Alors, merci de votre patience. Alors, j'étais pour la première fois votre invité sur le campus de Mississauga. J'étais agréablement surpris par la vitalité, aussi l'architecture. Il faut bien dire que c'est un immeuble qui est assez neuf, c'était très nouveau, mais c'est tellement accueillant, c'est tellement sympathique, c'est éclairé, c'est spacieux, vous avez un beau théâtre, et en plus des étudiants et des professeurs tellement intéressants. Moi, j'ai passé une soirée extraordinaire cette semaine. Bravo, félicitations à vous et à votre équipe.
Merci. En fait, je voudrais saisir l'occasion pour vous remercier de votre présence à cette occasion. Nous avons célébré la semaine de la francophonie et voilà, on a organisé
une soirée de talent.
Une soirée de talent avec les étudiants et même quelques membres du corps professoral et même du personnel administratif. Ouais. Alors donc, c'était une soirée riche en couleurs.
J'ai vos collègues qui sont avec moi et qui m'aident à faire cette émission. Vous connaissez très bien Pascal Michelucci, n'est-ce pas?
Eh oui, c'est d'ailleurs un collègue de Mississauga, mais qui est le directeur des études françaises à Saint-Georges.
Ouais. Et Caroline Lebrec, que vous connaissez.
Ah, bonjour.
Et puis professeur Eddy Bouraoui, que peut-être vous connaissez.
Bonjour. Oui.
Et nous avons un jeune étudiant à l'Université de Toronto sur le campus Centre-Ville, Koya Barile-Kuz, qui a participé à notre concours cette semaine.
D'accord.
Oui. Alors, si vous aviez à décrire en 2 mots, parce que j'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir, vu que maintenant on a un partenariat officiel avec votre département, si vous aviez à décrire aux gens, aux auditeurs, l'essentiel même de ce campus de Mississauga et surtout du département de langagière.
Écoutez, comme pour ceux qui ne le savent pas, le campus de Mississauga fête cette année d'ailleurs son cinquantenaire, donc ça fait 50 ans d'existence, et donc c'est un des plus jeunes campus de l'Université de Toronto de façon générale, mais qui a connu une croissance assez phénoménale ces dernières années. Nous avons nous avons par exemple de nouveaux programmes au niveau des études supérieures, deuxième et troisième cycle. Nous avons une académie de médecine et c'est à la faveur de cette réorganisation administrative que nous avons créé le département d'études langagières qui était en fait au début un département de français, d'italien et de langue allemande.
Alors, ça bouge, hein. On voit qu'il y a aussi beaucoup d'activités au campus de Scarborough, chose que les gens ignoraient absolument parce que personne ne parlait de votre présence dans l'Est ou même dans l'Ouest. Et or, là, c'est toute une surprise de voir que les auditeurs commencent à découvrir qu'il ne faut pas nécessairement venir au centre-ville, mais qu'on peut aussi avoir accès à des cours sur les différents campus de la grande ville de Toronto.
Et en fait, ça, je dois une fière chandelle au directeur actuel des études françaises à Toronto, le professeur Michelucci. Il a organisé avec les directeurs des deux autres campus, Scarborough et Mississauga, une campagne de publicité qui visait à montrer l'unicité du français à travers les trois campus, donc une université, trois campus. Et c'est une campagne qui a rejoint pas mal d'étudiants au niveau du secondaire et du primaire. Et donc, ça nous a permis également de mettre ensemble nos forces et de voir ce qu'on pouvait faire au niveau de la francophonie. Ce regain d'activité-là.
Oui. Et la radio peut être un vecteur essentiel et important pour diffuser les choses, les événements qui se passent sur votre territoire, n'est-ce pas?
On se réjouit d'ailleurs de cette collaboration, de ce partenariat avec vous, parce que ça permet de faire connaître mieux nos programmes. Et le professeur Lebrecht a travaillé fort cette année justement pour mettre à l'avant-scène toutes les activités que nous avons sur le campus à Mississauga. Oui.
Écoutez, bravo, bravo. Quel est votre mot préféré ou expression préférée avant de nous quitter?
Alors, vous voulez une expression québécoise ou une expression
québécoise, oui. Alors, par exemple, de Burkina Faso, je vois ici, quand on dit c'est caillou, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est difficile. La situation est assez difficile. Ah oui, c'est corsé.
C'est caillou.
Voilà, c'est caillou.
Oui. Je trouve ça formidable. Moi. C'est ça,
mais
la beauté
avec vous, avec vous, c'est du bonbon. C'est pas caillou.
C'est du bonbon. Écoutez, j'espère que vous serez des nôtres et que les gens auront le bonheur de vous rencontrer, de faire connaissance avec vous et votre équipe mercredi. On vous attend.
Écoutez, merci de l'occasion que vous m'offrez et bonjour à tous les auditeurs et à la prochaine.
Merci, au revoir. Professeur.
Au revoir.
Alors voilà, c'est caillou, mais moi c'est bonbon. J'adore ça. Et du chocolat. Vous aimez les bonbons ou les chocolats? Alors, dans un instant, nous allons rejoindre notre dernière invitée. C'est un collègue, une collègue que vous connaissez très bien, n'est-ce pas, Pascal? Si vous aviez à présenter justement Daniel Issa-Sayeg.
Ah ben Daniel, c'est une représentante parfaite de la francophonie, oui. Parce que elle a vécu au Canada, d'origine libanaise,
exactement.
Elle a grandi au Sénégal,
voilà.
Et elle est maintenant en France.
Ouais, elle est niçoise.
Et elle est niçoise.
Elle est niçoise, oui. Alors, et elle a co-animé cette émission avec moi pendant plusieurs années.
Très longtemps.
Et elle aime beaucoup faire de la radio et elle nous suit depuis très longtemps. Et ce qui est bien aussi, c'est de voir que les gens parlent de l'émission ou bien les gens parlent de la francophonie, de leur projet, à pas seulement leur petit réseau, mais aussi à un vaste réseau. Et nous sommes qu'un élément, mais je pense qu'il faut utiliser tous les réseaux, l'Express de Toronto, les autres magazines, RFI et tant d'autres pour faire connaître et décloisonner cette francophonie. Et vous avez encore une fois, Caroline, fait un travail avec vos collègues de Mississauga, de Titan, incroyablement bien réussi. J'espère que les étudiants n'étaient pas très très nerveux, non?
Ben, peut-être qu'ils l'étaient, mais en tout cas ils ont très bien fait et j'ai eu des retours. Ils demandent est-ce que des gens ont pris des photos. Donc ils étaient très très enthousiastes.
Ouais. Alors nous avons aussi d'autres personnes qui sont dans la salle ici, entre autres une pionnière de la francophonie, c'est Diane Chaperon-Laur qui était à notre émission la semaine dernière. Diane est connue comme Barabbas dans La Passion, ici à Toronto, siège sur plusieurs
plusieurs comités consultatifs. Elle écrit, elle met son nez partout à l'hôtel de ville de Toronto. Et c'est ça qu'on aime. Elle était à TVO, elle était à Radio-Canada avant. Et aujourd'hui, elle est une auditrice permanente, je dirais, de l'émission. À chaque dimanche, elle nous envoie ses commentaires, ses réactions. Et je trouve ça formidable. Et merci d'être là. Et je pense qu'elle sera là aussi mercredi pour rencontrer cette personnalité importante. Merci beaucoup, Diane, de ton appui, de ton soutien à l'émission. 30 ans. Alors, on est content de voir qu'il y a des gens qui nous suivent aussi longtemps que ça. Et je pense que nous sommes prêts maintenant pour terminer l'émission en passant à Nice. Alors, si on faisait un tour de table de tout ce que vous avez entendu depuis 11 heures aujourd'hui, tous ces invités d'un océan à l'autre, presque, qu'est-ce que vous avez retenu? Oui.
Très intéressant l'intervention de l'éditeur, surtout après la conversation qu'on avait eue sur la transformation du langage français. Mm-hmm. J'aurais bien aimé lui poser la question si lui, il avait été témoin de cette transformation du langage. Et le message de Michael Jean était très, très touchant aussi.
Mm-hmm. Et Pascal ?
Oui, moi, ce que je retiens, c'est cette effervescence qui est bien différente de ce qu'on entendait il y a quelques années où on parlait de la survie, des dangers. Il y a beaucoup plus d'optimisme, il y a beaucoup plus de dynamisme maintenant.
Oui. Caroline ?
Moi, je retiendrai la polarité entre les différences et le trait d'union dont a parlé Magazine.
Oui. Et vous avez des projets, là ? Après la soirée des talents, il se passe autre chose ? Oui.
Ben, je ne sais pas si je c'est en chantier, mais il y a peut-être l'idée d'organiser la nuit blanche cet automne sur le campus de Mississauga.
Alors, vous rejoignez en plein le thème de Dany Laferrière, la nuit.
Tout à fait, la nuit et le partage surtout, je pense, c'est ça le plus important. Et j'ajouterais simplement, et de faire partager.
Oui.
Non seulement partager, mais de faire partager. Oui. Voilà. Et dans la diversité.
Oui. Alors, est-ce que nous avons Daniel qui était avec nous ? Oui. Alors, on me dit qu'elle est là, qu'elle va clôturer l'émission. Pascal, vous allez nous parler de ce rayonnement de printemps qui démarre dès mardi chez vous avec les croissants et le café. Allez-y.
Oui, pour fêter la semaine de la
française. Démontrez-moi votre talent de promoteur et de professeur promoteur.
On va organiser un petit déjeuner grâce au croissant de Bonjour Brioche.
Ouais.
Donc, vous pouvez venir au département à 10h tous les jours, mardi, mercredi,
tous les
jeudi,
jours.
Vendredi.
Ah ouais.
Et prendre le petit déjeuner avec café croissant chez nous.
Ouais. Les gens adorent les croissants. Hein? Moi, j'aime beaucoup les croissants.
Là,
oui. Alors, donc, l'adresse encore une fois ?
C'est 50 rue Saint-Joseph, au département d'études françaises de l'Université de Toronto, édifice Odette.
Oui, et, c'est bien. Alors, d'ailleurs, les gens peuvent aller sur le site de l'Université de Toronto au centre-ville. Et aussi, la même chose pour l'Université de Toronto, Mississauga. Vous allez French Studies. Alors, vous avez l'allemand, l'italien, tout ça. Et vous allez tomber sur les études langagières de département, n'est-ce pas ? Très belle affiche d'ailleurs pour votre 50e anniversaire. Et alors, on me dit qu'elle est là ? Oui. Alors, Daniel, bonjour.
Bonjour, Eric.
Alors, oui,
bonjour, Pascal.
Vous n'avez que quelques secondes parce que vraiment, on a voyagé à travers la planète avec plusieurs invités.
Oui.
Oui. Alors, comment se passe l'évolution, l'effervescence à la veille